Vous cherchez encore à foutre la bagarre dans les banlieues. Mettez les choses à, remettez les choses à leur place et arrêtez d'attaquer Nicolas Sarkozy. Vous ne lui arrivez pas à la cheville. Quand est-ce que France Inter comprendra que de vous entendre, il y en a plus que marre de vos sarcasmes et de vos cochonneries. Une bonne fois pour toutes, fermez votre gueule.
Bonjour, Guillaume de Montpellier. Voilà, alors après une semaine d'absence sans là-bas si j'y suis, j'ai allumé mon poste hier. Et qu'entends-je ? Eu un message indigné d'une vieille dame à propos d'une émission de jeudi. Alors je me précipite sur le site là-bas.org, je télécharge l'émission de jeudi dernier, celle de vendredi. Et je tombe sur un reportage d'un homme, ni bon ni mauvais, égoïste, généreux, macho, efféminé. Et même s'il m'a fait rire, je trouve qu'il y avait beaucoup de détresse, en fait, dans cet homme-là. Et pour réagir aux réactions qui ont suivi cette émission, moi, je voulais dire que, eh bien, si j'ai signé la pétition pour sauver la passe j'y suis, c'est exactement pour entendre ce genre d'émission. Parce qu'il n'y a pas que ce genre d'émission, il y a aussi ensuite une émission sur la Courneuve, une émission sur la Tchétchénie, et que je suis fier d'écouter ce genre d'émission, et je suis fier qu'elle passe à la radio. Voilà, continuez le combat.
Oui, bonjour, je appelle pour un conseil. Je vous conseille de ne pas vous acharner sans cesse sur le ministre de l'Intérieur, car si ce dernier venait à être élu en mai prochain, je crains beaucoup que pour l'équipe de là-bas, si j'y suis, les représailles du futur président de la République, Nicolas Sarkozy, sera très punitif pour vous. Donc c'est juste un conseil amical. Merci, au revoir.
Il y a deux choses importantes en Dordogne. Il y a la bonne bouffe et le point repère des amis de là-bas, si j'y suis. Ça se trouve à Excideuil. Au café Resto Le Dracar, et c'est ce soir, mardi, à partir de 20h, le numéro de téléphone 05 53 62 98 20. Salut.
Bonjour, Thierry de Bordeaux, entendu ce midi sur votre antenne, la phrase du jour, signée Guy Drut, on peut être chiracien et sarkozyste, on peut être aussi coupable et gracié. Au revoir, SMG.
Bon. C'était une dure journée hier. Sarkozy, on y a eu le droit au moins 10 000 fois sur toutes les radios. Son nom, il a été cité au moins 10 000 fois sur toutes les radios. Hein. Et même ton émission. Hein. Bon, enfin bref, j'ai fait l'effort d'écouter. C'était fort, fort passionnant. Surtout là, vers la fin, le reportage de Monsieur Alain, là, le gardien. Vraiment le style de Beaufréac, typique, vraiment, t'as tout bien, vraiment bien choisi. Et le problème, c'est qu'il y en a des milliers, des milliers, des milliers comme lui. Des millions, je dirais même. Et ils vont voter en 2007. Alors j'ai très très peur. Je crois qu'il serait temps de se mobiliser. Sinon on va faire comme à Bordeaux, 56% d'aboutis qui vont voter pour Sarkozy et on sera vraiment dans le caca. Merci Daniel, puis continue tes missions, ce sont vraiment passionnantes.
Ce soir, 17 octobre, c'est le 45e anniversaire du massacre qui s'est déroulé au Pont Saint-Michel en particulier, mais à Paris d'une façon générale. Le 17 octobre 61, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent pacifiquement à Paris contre le couvre-feu discriminatoire qui vient de leur être imposé par Maurice Papon, préfet de la police de Paris. Ils défendaient leur droit à l'égalité, leur droit à l'indépendance et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce jour-là et les jours qui suivirent, des centaines de manifestants furent tués par les policiers aux ordres de leurs supérieurs. Des milliers ont été arrêtés, emprisonnés, torturés. Nombre d'entre eux ont été refoulés en Algérie. 45 ans après, la vérité est en marche, mais la France n'a toujours pas reconnu sa responsabilité dans la guerre coloniale qu'elle a menée, en particulier dans la guerre d'Algérie et dans le cortège d'horreur qu'elle a entraîné, ni dans ce crime d'État que constitue le 17 octobre 61. Certains osent continuer à parler des bienfaits de la colonisation. Le devoir de mémoire s'impose pour cette période sombre de notre histoire, comme il s'est imposé pour la période de la collaboration vichyste avec l'Allemagne nazie. Ce n'est qu'à ce prix que pourront disparaître les séquelles les plus graves de la guerre d'Algérie, le racisme dont sont victimes aujourd'hui les ressortissants d'origine algérienne ou par extension le Maghreb ou d'anciennes colonies. pour exiger la reconnaissance officielle du crime d'État commis par l'État français le 17 et 18 octobre 61, la liberté d'accès effective aux archives pour tous, historiens et citoyens, un lieu de mémoire de souvenirs des victimes du colonialisme. Le rassemblement de 17 octobre à Paris a lieu donc au Pont Saint-Michel à 18h30, là où des centaines d'Algériens ont été jetés à la Seine. À bientôt, au revoir et à tout à l'heure.
Des centaines d'Algériens, sans doute pas depuis le Pont Saint-Michel, mais quelques-uns, et au moins un, puisque il y a 45 ans, j'étais là, sur ce pont Saint-Michel, ce jour-là, ce 17 octobre 1961. Et tout à l'heure, je serai sur le coin du pont Saint-Michel, près de la pendule, pour cette journée anniversaire de ce qui est effectivement, comme le dit cet auditeur, un crime d'État. Il a fallu, vous le savez, des années et des années d'entêtement pour que cette journée portée disparue, pour évoquer le titre d'un film fameux, un documentaire fameux sur cette journée, ne disparaissent pas tout à fait. Et il faut saluer aujourd'hui encore ceux qui, comme la mémoire du fleuve et d'autres associations, des personnes diverses et variées, ont fait en sorte que cette mémoire vive et qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé ce jour-là, ce soir-là, cette nuit-là, à Paris. Aujourd'hui, on va peut-être une continuation, après tout, à les savoir de cette journée qui dans l'émission d'aujourd'hui, il y a peut-être une prolongation à les savoir, puisqu'on va aller faire un tour au musée du Quai Branly. Et oui, on va aller faire un tour un peu particulier, puisqu'on va aller visiter ce musée avec deux jeunes Africains de Cachan, à l'époque, il y a quelques semaines, où ils résistaient contre leur expulsion. On va aller faire un tour dans ce musée avec aussi Aminata Traoré, mais aussi on va parler avec des ethnologues et avec ceux qui pensent qu'il y a là au moins l'objet d'une polémique que la direction du musée refuse radicalement d'assumer. Donc voilà, c'est notre sujet du jour. Après les messages que voici et que vous avez laissés, comme chaque jour, dans la boîte vocale de là-bas. Si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour les auditeurs, qui ont bien tort d'être aussi modestes alors qu'ils sont si géniaux. Ceux de Montreuil ou d'ailleurs se réunissent ce soir chez Ratatam, rue du Capitaine Dreyfus, à partir de 19h. Dans nos réunions, on se demande souvent à quoi sert le repère, quel est le but. Le but, c'est de se connaître, d'être ensemble sur le chemin, qui, beaucoup l'espèrent, nous conduit au grand soir. Mais le grand soir n'est pas le but. Le but, c'est d'être en chemin, et le chemin, ce mardi, passe par Ratatam à Montreuil. Salut à tous.
Bonjour le répondeur, c'est Dany, de La Roche-sur-Yon. J'appelle au nom du collectif 85 contre la délation et la répression sociale. Samedi prochain, 21 octobre, nous organisons une rencontre-débat suivie d'un repas festif autour du thème « Comment résister aux lois sécuritaires ?» avec la participation de Dominique Noguer, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, et de Jean-Baptiste Libouban, compagnon de l'Arche, initiateur des faucheurs volontaires d'OGM, qui nous parlera de la désobéissance civile. Donc, rendez-vous samedi 21 octobre à partir de 14h30 à la salle des fêtes du Bourg sous la Roche à La Roche-sur-Yon. Merci à toute l'équipe de la Bastille, j'y suis, pour son travail. Ciao.
Bonjour, je m'appelle Jacqueline. J'appelle de Bretagne. Ce matin, j'ai encore entendu parler du trou de la sécurité sociale, de l'augmentation du nombre de médicaments qui ne seraient plus remboursés. Et dans le courant de l'année, je suis incapable de retrouver la date exacte, Jean-Marc Sylvestre a dit qu'on savait que c'était la dernière année de vie qui coûtait le plus cher. Pour résorber le trou de la sécurité sociale, je proposerai volontiers qu'on fasse une pétition pour que l'on supprime la dernière année de vie. Je crois que ça arrangerait tout le monde peut-être. Voilà, merci, à bientôt.
Salut, lundi soir, lundi soir, minuit 45, Capitole, Toulouse. Voilà, on est avec des familles de sans-papiers ici sur la place. C'est une vision hallucinée un peu. Voilà, il y a des lits de camp, il y a des couvertures, des tentes, des chaises. Voilà, et les familles sont au milieu de la place. Il fait froid. Et c'est des familles qui n'ont plus d'endroit où se loger là, en attendant que leur dossier soit examiné au cas par cas. Et voilà quoi. Je vais pas tarder à rentrer. Et voilà, je dis juste serait l'étranger, laisse pas seul avec les Français.
Ah, c'est ça dont je vous avais parlé.
Ah voilà, ouais, formidable. C'est un dessin de ville magnifique. Ah oui, enfin, formidable si on peut dire. C'est les boat people qui arrivent probablement vers les Canaries, qui arrivent vers les Canaries ou qui arrivent vers l'Europe et qui se noient, qui sont dans des souffrances terribles et à un garde-côte qui les menace avec son flingue. Les pauvres gens, les pauvres Africains disent « Nous venons visiter le musée des arts premiers. »
L'amiral Bléau, secrétaire d'État à la marine et aux colonies, et M. Hautecoeur, directeur général des Beaux-Arts, inaugurent à Paris une exposition qui montre l'influence de l'exotisme colonial sur le décor de la vie française. Des porcelaines de Sèvres inspirées de l'art turc. Nature morte de Gauguin. Une commode en bois des îles. Une armoire en lac anamite. Et le célèbre pavillon en ivoire offert par l'empereur Qianlong à Louis XV.
Cette nouvelle institution, dédiée aux cultures autres, sera pour celles et ceux qui le visiteront une incomparable expérience esthétique, en même temps qu'une leçon d'humanité indispensable à notre temps.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Renaud Lambert, là-bas, si j'y suis, le musée du Quai Branly.
Bonjour, Monique.
Bonjour.
Alors, il viendra autant au musée du Quai Branly pour son bâtiment que pour ses œuvres.
Oui, Jean Nouvel a réussi son pari, celui de construire le musée le plus mystérieux de Paris, un bâtiment sur pilotis qui épouse les courbes de la Seine, un jardin de près de 2 hectares planté de lianes, de magnolia, d'érables et de chênes. Quand les arbres pousseront, ils iront chatouiller les grosses boîtes couleur ocre qui ont fait tant jaser, et ces boîtes ressembleront alors à des cabanes. Jean Nouvel, qui a conçu pour la première fois un musée autour d'une collection, a voulu une visite initiatique.
Quand on rentre, en fait, j'ai voulu prolonger cette initiation. On prend une grande rampe, comme ça, qui dure quand même 150 ou 180 mètres. J'appelle ça la remontée du fleuve. Hein, donc, et là, on tombe dans la galerie sacrée.
Une galerie de 5000 mètres carrés où vous aurez l'impression d'être dans une forêt divine, inondée tantôt de soleil, tantôt d'étoiles. Jean Nouvel a même pensé à l'agencement des trésors venus des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, suspendus dans de très grandes vitrines. On a l'impression de pouvoir les toucher.
Et 3500 objets seront exposés en permanence, plus spectaculaires les uns que les autres.
Ah oui, les 3500 pièces ne représentent qu'un dixième des réserves du musée, mais ce sont les plus belles, des masques, parures, totems, costumes, armes ou instruments de musique réalisés dans tous les matériaux possibles. La plus spectaculaire, c'est la Joconde du musée, une femme barbue, elle est couverte de bijoux, ses seins nus lui arrivent au ventre, cette divinité Dogon de la fertilité a été sculptée dans du bois au Xe siècle. Son prix aujourd'hui s'élève à 4 millions d'euros, mais vous trouverez aussi des objets plus modestes comme une plante charme utilisée par les Mlongars vietnamiens pour faire la cour aux jeunes filles en lui chatouillant son dos. Ces 3500 objets étaient destinés aux vivants ou aux morts, aux chefs ou aux villageois. Ils nous rappellent qu'avant que ça devienne de l'art, c'était l'art de vénérer les dieux.
Un désastre, un monument d'incompétence, une catastrophe, un naufrage dans un marécage de poncifs prétentieux, un endroit à pleurer. Ainsi s'exprime Fiacra Gibbons du journal The Guardian, journal de Grande-Bretagne, au sujet du Quai Branly. Ça tranche un petit peu avec l'enthousiasme et l'euphorie qui a gagné il y a quelques mois, fin juin dernier, la presse française lors de l'inauguration du musée du Quai Branly. On peut dire, oh bah oui, mais c'est des Anglais, ils nous aiment pas, ils sont toujours très méchants avec nous. D'accord, alors tournons-nous vers la presse américaine, vers le New York Times par exemple, où Michael Kimmelman n'est pas tellement plus tendre avec le musée du président Chirac, où il dit, si on avait demandé aux Marx Brothers un musée pour les peuplades primitives, ils auraient créé ces galeries, une jungle effrayante, rouge, noire et boueuse, un accrochage sans logique apparente, un lieu à l'apparence excitante au premier abord, mais qui, à l'évidence, est conçu de travers. L'endroit n'a tout simplement aucun sens. Le vieux et le neuf, le beau et le médiocre, tout est empilé sans rime ni raison, sinon la recherche d'une théâtralité visuelle. Eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit. Une théâtralité visuelle. Si vous allez au musée du Quai Branly, ce à quoi évidemment je vous engage, puisque l'ouverture d'un musée doit nous réjouir. C'est une grande et bonne nouvelle que l'ouverture d'un musée, puisque c'est une promesse de connaissance, c'est une promesse d'émotion, c'est une promesse d'ouverture des esprits, des cœurs, des âmes et des rapprochements, de passerelles, en l'occurrence avec d'autres mondes et d'autres cultures, qui ne peut que nous réjouir, sauf que effectivement il s'agit bien d'une théâtralité visuelle, c'est-à-dire d'une mise en scène tout à fait esthétisante d'objets dont on décide qu'ils sont beaux et qu'on met en valeur sans nous dire exactement quelles sont ces valeurs. Et ces valeurs pourraient bien, malgré une évidente bonne volonté qui ressemble assez à la bonne volonté de ceux qui ont participé à la mission colonisatrice de la France, la mission civilisatrice de la France, pourrait bien être le même piège, c'est-à-dire de décider à la place des autres, pour partager cette expérience esthétique dont parle le président de la République, eh bien que ce soit nous qui choisissions, qui disions voilà, ça c'est beau, ça l'est moins, et que tout se passe selon et notre agenda, et nos valeurs, et notre exclusif regard. Et il se pourrait bien, ajoute ce journaliste du New York Times, que ce soit le musée lui-même qui comporte, disons, des miasmes d'une certaine forme de colonialisme. Je le cite, le colonialisme de jadis remplacé par un nouvel avatar de la condescendance française. Alors, on est très sévère, évidemment, avec ce musée, mais on n'est pas les seuls. Depuis des années, depuis que le projet existe, il existe une controverse entre un certain nombre d'ethnologues, d'intellectuels, de spécialistes, ou pas d'ailleurs, et puis ceux qui ont œuvré à la construction, à la préparation et à l'ouverture aujourd'hui de ce musée. Manque de chance, cette polémique qui est très passionnante, très intéressante entre les ethnologues et les esthètes et qui, à elle seule, pourrait nous éclairer, est une polémique riche, une controverse riche sur le plan des choix culturels que nous pouvons faire et qui est très éclairante. Eh bien, on est très malheureux à la base si j'y suis, parce que la direction du musée du Quai Branly a refusé toute interview et a refusé de participer à cette émission, tout comme à toutes les controverses, les discussions sur le sens des objets présentés dans ce musée du Quai Branly. Ça ne nous empêche pas d'être ensemble dans ce musée et ailleurs jusqu'à 16h dans la basse suis.
Kari Kari Madison. Kari Kari Madison. Kari Kari Madison.
On va aller au premier étage, c'était les salles du musée là. On va montrer le musée. Donc ici c'était la salle Esquimo, qui était remplie de pièces rapportées par Paul-Émile Victor entre 1931 et 1935. Et ensuite, on arrive, après les Esquimaux, on arrive à l'Asie, où également, ça avait été rénové plus ou moins complètement au cours des temps. Et puis, on va arriver à l'Océanie. Ici, l'Océanie avait été rénovée également.
Ce qui est formidable, c'est que vous êtes en train de me dire les Esquimaux, l'Asie, l'Océanie, mais il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est qu'il n'y a rien. On est en train de marcher dans du vide.
Et oui, il n'y a plus rien, puisqu'on est au Musée de l'Homme. Vous voyez, le Musée de l'Homme à Paris, c'est le Trocadéro. Quand vous regardez la Tour Eiffel devant l'esplanade des droits de l'homme, eh bien c'est à droite. Il y a toujours le vénérable Musée de la Marine, que je vous engage à visiter. C'est un endroit formidable. Et puis là, il y avait le Musée de l'Homme. Il y avait le Musée de l'Homme, puisque avec l'ouverture du Musée du Quai Branly, eh bien, c'en est fini de ce musée, le Musée de l'Homme. Pour l'instant, c'est fini. C'est vide, en tout cas. Les pièces, nombreuses pièces qui étaient dans ce musée, 300 000 objets divers et variés ont été stockés, une partie importante dans les sous-sols de l'actuel, donc nouveau musée du Quai Branly, et cet espace énorme, cet énorme vaisseau est vide aujourd'hui, et on l'arpente avec Bernard Dupeigne. Bernard Dupeigne a été directeur du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme pendant des années, de 91 à 98, et il a réuni une très importante collection ethnographique, et il a publié un livre tout récemment, à la rentrée, qui s'intitule « Le scandale des arts premiers ». Les arts premiers, c'est le mot que finalement on n'a pas choisi pour ce musée du Quai Branly. Ça a donné lieu à des polémiques, toutes très intéressantes, ces polémiques, hein. Art primitif, art premier, art ethnique, art tribaux, tout ça, ça en dit long sur le regard que nous portons sur le reste du monde. Hein, et maintenant, bref, le reste du monde. Ben ce reste du monde, à travers ces mots, ça en dit long sur ce que nous sommes, sur ce qu'est notre pays et son histoire et, évidemment, son histoire coloniale. L'intention affichée du musée du Quai Branly, c'est justement de hisser ces objets produits par des sociétés diverses et variées en Océanie, dans les Amériques, en Afrique, en Océanie. C'est de dire ces objets méritent qu'on les admire comme au même titre que on admire des objets occidentaux. Mais cette façon de hisser, d'ennoblir en somme ces productions de ces régions non européennes, c'est nous qui décidons. En l'occurrence, c'est notre président de la République avec quelques esthètes qui lui ont fait ces propositions, qui ont travaillé à la création de ce musée et qui sont pour la plupart des gens engagés dans le commerce de l'art et dans le, qui sont des négociants en œuvres, en objets d'art. Parce que ce qui est important dans art primitif, c'est objet d'art primitif, c'est objet d'art premier, c'est objet d'art ethnique et c'est objet d'art tribaux. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'objet. Ce qui compte, c'est l'objet. Pourquoi ? Ce qui est très, très important dans l'objet, c'est qu'on peut spéculer sur un objet. On peut vendre et acheter un objet. Et on est allé vers ça. Au moins, c'est ce qui désespère un certain nombre d'ethnologues, un certain nombre de ceux qui se sont opposés ou qui contestent le sens de ce musée et qui disent il y a des objets, mais il n'y a pas de sujet derrière ces objets. Et c'est pourquoi on va, nous, aller dans ce... découvrir ce musée du Quai Branly avec les héritiers de ces cultures, avec des Africains que vous allez découvrir. Pour l'instant, on est avec donc Bernard Dupeigne dans ce grand musée vide, au pied de ce grand musée vide, celui de l'homme.
Donc je suis Bernard Dupeigne, il se trouve que je suis ancien directeur du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme, et laboratoire dont les collections ont été emportées au Quai Branly, au nouveau musée du Quai Branly, et forment non pas la totalité de ces collections, mais une grande partie des collections du Quai Branly.
Alors là, il faut dire qu'on est dans un des plus beaux endroits de Paris. On est au Palais de Chaillot. On est sur cette sublime esplanade du Palais de Chaillot. Devant nous, la Tour Eiffel. Il y a un ciel magnifique. On aperçoit là-bas le Dôme des Invalides. Derrière nous, il y a des jeunes gens qui font du hip-hop, et c'est superbe. Et puis c'est l'aile, alors quand on regarde la Tour Eiffel devant soi, c'est l'aile droite du Palais de Chaillot, et là il y a le musée de la Marine et le musée de l'Homme. Alors il y a cette terrasse, il y a ce restaurant très agréable, et sauf que c'est vide, ou presque maintenant, le musée de l'Homme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si on regarde là-bas, hein, on a les Invalides là, et derrière ce bosquet d'arbres, il y a le musée du Quai Branly. C'est-à-dire que c'est ce que vous voyez et que vous abhorrez quand même, il faut bien dire les choses.
Oui, bon, on regrette quand même d'avoir été dépossédé de nos collections, de notre science, et je dirais presque même de ce bâtiment. On a le plus beau bâtiment de Paris sur une place extraordinaire, à côté de l'esplanade des droits de l'homme voulue par François Mitterrand, et on a des grandes galeries vides, 200 mètres, 300 mètres de long, et ce nouveau musée, on aurait très bien pu le faire ici, au lieu de vider un musée pour construire un autre.
Retour à Paris avec le musée de l'Homme du Trocadéro, qui doit déménager vers sa nouvelle adresse, Quai Branly. Le musée de l'Homme existe depuis 1937. Les syndicats sont contre sa fermeture et le personnel a entamé une grève ce lundi. Sophie Nenny, Guillaume Michel.
Archéologues, enseignants, scientifiques, intermittents du spectacle, tous s'étaient donné rendez-vous ce matin devant le musée de l'Homme pour empêcher le déménagement des collections d'ethnologie et pour soutenir son personnel en grève. Parmi eux, le célèbre ethnologue et cinéaste Jean Rouche.
On est là pour dire non. Et je suis très heureux que ça se passe ici au musée de l'Homme. Ce musée n'appartient à nous, mais pas à ceux qui veulent le transformer en bazar de l'hôtel de ville.
Alors, tous ces trésors des civilisations non européennes possèdent donc désormais un écrin à la hauteur de leur beauté. C'est bien sûr ce musée du Quai Branly qui est lui-même une œuvre d'art architectural à la fois intrigante et séduisante, une œuvre signée Jean Nouvel.
Donc je suis Bernard Dupeigne, il se trouve que je suis ancien directeur du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme, et laboratoire dont les collections ont été emportées au Quai Branly, au nouveau musée du Quai Branly, et forment non pas la totalité de ces collections, mais une grande partie.
Alors, ça y est, on est au cœur du musée du Quai Branly. Et on, voilà, on est dans au centre de la bête, au cœur de la bête.
C'est pas le guide.
Alors, il faut dire que dans quelle compagnie on se trouve. On se trouve avec Aminata Traoré. Il faut rappeler qu'Aminata Traoré est malienne, ex-ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, qui a pris des positions sur ce musée, qui a émis quelques critiques. Et puis on est avec deux jeunes Africains, l'un de la Côte d'Ivoire, l'autre du Mali, qui sont actuellement dans une bagarre épouvantable à Cachan, dans le gymnase de Cachan. Oui, les deux gars sont crevés, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils attendent d'une minute à l'autre un assaut des CRS dans leur gymnase. Les mamans, les enfants, il y a déjà eu différentes attaques de leur refuge. On leur a demandé de venir ici parce que malgré tout, ils sont quand même africains. Et qu'ici, on est dans la section africaine de ce musée. Et on a voulu quand même faire un rapprochement entre vous deux Africains et une Africaine, et ces pièces qui viennent de chez vous, qui viennent de votre Afrique noire, au moment où tout le monde est en train d'admirer ses œuvres et ses chefs-d'œuvre, on est en train de virer de la façon la plus brutale des Africains, c'est-à-dire des gens qui sont des ressortissants malgré tout de cette culture et qui ont des liens. C'est le moins
non, qui sont les propriétaires de ces œuvres. Elles nous appartiennent. Ouais. Et donc, c'est surréaliste. Je ne vois aucun Africain autour de nous. Je me crois vraiment sur une autre planète qui n'a rien à voir avec le monde réel. Et pour moi, c'est ici. C'est l'illustration la plus parfaite des incohérences, des contradictions des rapports nord-sud. Le soin avec lequel ces objets sont traités est tranche avec la violence policière que nos frères sont en train de subir à Cachan aujourd'hui, qu'ils ont subi à Ceuta et Melilla. Et on préfère, dans ces atmosphères feutrées, venir voir ce qui émane de nous. Mais les Africains vivants, réels, qui sont sur pied, et c'est pas mal du tout que ce musée émerge précisément au moment où Nicolas Sarkozy nous sert l'immigration choisie. Quoi. On ne peut pas trouver mieux.
C'est vrai que les jeunes Africains là, qui sont là, complètement fatigués parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, ils font des tours de veille dans leur gymnase là-bas à Cachan, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, on est quelques-uns qui ne dorment pas, qui font la surveillance de 24 heures sur 24 heures parce qu'on a été attaqué avant-hier par les forces de l'ordre. Quand nous, on est là, on attend que si vraiment que les forces de l'ordre viennent au gymnase, il y aura trop de morts. Parce que tout le monde est déterminé, parce qu'on en a mal. Je préfère aujourd'hui mourir de cette situation que je suis dedans.
Et pendant ce temps-là, autour de nous, tous ces visiteurs sont en train de s'enchanter de pièces magnifiques, hein, de sculptures. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai.
Ici, hein. Il y a des laisses.
Pourquoi vous ne venez pas ici? Venez vous installer là avec vos enfants, non? Avec vos femmes, vos enfants, vos copains, non?
Oui, bon.
C'est l'Afrique. C'est l'Afrique, mais il n'y a pas d'Africain.
Oui, il n'y a pas d'Africain.
C'est une Afrique sans Africain. Il y a des objets qui sont africains, mais il n'y a pas d'Africain dans l'Afrique.
Ouais.
Hein?
C'est ça. Ils ont besoin de nos objets, mais pas nous-mêmes. Pas nous-mêmes.
Les objets, mais pas de sujet.
Voilà. C'est incroyable. Moi, c'est ma première fois de venir là. Bon, déjà, j'ai la tête qui tourne. Quand je vois ce genre de trucs, bon, ça me donne de plus la haine encore, de plus ce qu'ils sont en train de nous mener aujourd'hui.
Alors l'un s'appelle Séméga Gaouchou, il est du Mali, l'autre s'appelle Posso Inza, il est de Côte d'Ivoire, et tous deux étaient dans le squat de Cachan, ils en ont été expulsés, et voilà, on a eu l'idée avec Renaud Lambert de leur demander de venir voir ce musée. Après tout, ils sont ils appartiennent aux cultures et aux peuples qui ont produit ces œuvres que nous admirons. Alors on admire ces œuvres bien évidemment, mais on est un peu surpris quand même de voir qu'il n'y a pratiquement même aucun visiteur africain. Hein, les minorités visibles, ben là, elles sont, on les voit pas. Si, soyons justes. On voit une charmante fille noire à la cafétéria. On voit des hommes noirs à la surveillance, aux caisses, aux vestiaires, mais aucun pour visiter ces merveilles. Alors quand on dit passerelle, échange, rencontre, etc. Non, on a un public de gens qui errent dans ce musée du Quai Branly, regardant les objets assignés à l'ébahissement, assignés à l'émerveillement, qui sont là avec leurs petites réserves de superlatifs. Il n'en faut pas beaucoup, une dizaine vous suffira, mais qui n'en sauront pas plus, parce que les cartouches, enfin les indications qui sont portées sont très très succinctes. On a compris qu'à travers les éclairages extrêmement léchés, mystérieux, c'est le grand mot mystérieux, parce que tout cet art est mystérieux, comme vous le savez, peut-être, on n'en saura pas plus. Qui a produit ces objets, dans quelles conditions, quel est leur sens, quel est leur usage, etc. Ah non, ça relève de l'ethnologie, et l'ethnologie serait empreinte d'un regard péjoratif. Il faudrait là admirer un point, c'est tout.
Donc
ça, tu sais ce que c'est ?
Oui. Tu connais ça, mais ça, c'est dans la brousse. Le féticeur qui fait ce masque-là, il garde ça dans la brousse. Donc, il égorge des moutons pour faire le sacrifice, mais il ne garde pas ça dans la maison, mais il garde ça dans la brousse. Parce que c'est un fétiche très fort. Il risque de faire la fissure à la maison.
Fissure à la maison ?
Oui.
Il faut éloigner ça de la ville. Parce que ça...
De la ville ?
Oui. Il faut amener ça en brousse, parce que c'est puissant.
Fait, comme ça, il est tellement puissant qu'il faut l'éloigner de la ville. Sinon, ça risque de faire des fissures et d'effondrer les maisons.
Il fait des bruits dans la chambre, si ça est dans la chambre, si on parle avec lui. Donc, ça, s'il fait des grondements, donc ça peut faire des fissures.
Il y a déjà eu des inondations ici. C'est peut-être les fétiches qui ont déclenché les inondations des sous-bassements du musée.
Ah ouais.
Mais vous pouvez pas faire venir des féticheurs.
Non. Il y en a qui acceptent. Nous, on est devenus musulmans, on a changé les chemins. Donc maintenant, avant, on ne prie pas. Peut-être on était la même direction qu'eux. Et maintenant, on prie. Donc ce qui veut dire qu'on a changé les directions, on ne peut pas avoir des Allah à la fois. Quoi. Donc il faut, tu prends un côté, tu laisses l'autre côté.
D'accord. Ça c'est la culture animiste.
Voilà, animiste.
D'avant, d'avant et qui continue. Ouais, toi, tu es musulman aussi.
Ouais, moi, je suis musulman. Qui continue,
avant, c'était tout le monde qui faisait ça en Afrique, même presque.
Mais nos parents, leurs ancêtres, ils suivaient que ça. Et ils avaient plus de puissance.
Ouais. Il faut voir les pays de Renon, les pays de Dogon. Ils portent que des masques, ils portent même pas de chaussures. Ce sont eux qui soignent aussi les malades.
Avec des plantes, avec...
Avec des plantes, ça soigne aussi, c'est vrai, ça soigne.
Hoka, 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 hoka. Paralomé, sorcier ensorcelé, c'est du jamais vu. Sorcier ensorcelé, c'est du jamais vu. Il avait déjà mangé 9 têtes de lion, mais la 10e tête lui a rougi les yeux. Il s'est transformé en grand hibou pour manger Monsieur Daniel. Monsieur Daniel est trop malin, le sorcier est pris au piège. Il ne savait pas que Monsieur Daniel avait aussi le malin de la nuit. Il ne savait pas que Monsieur Daniel avait aussi le malin de la nuit.
sorcier ensorcelé. Sorcier ensorcelé, douze manières transées malin. Tel est pris qu'il croyait prendre. Et pourtant, il avait pu manger son père, il avait pu manger sa mère, il avait pu manger son frère, il avait pu manger sa sœur. Il rentrait dans les verres de bière, personne ne lui faisait la guerre. Il rentrait dans les verres de champagne, personne ne lui faisait la guerre. Mais arrivé chez Monsieur Daniel, le sorcier le mal est fini. Mais arrivé chez Monsieur Daniel, le sorcier m'a gueulé ma wigue. Shabalaba pa 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 la, la la, shabalaba pa 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 la, shabalaba pa pa la. Okay, bana boka, una la dikoso, wala wala.
Un objet, qu'est-ce que c'est un objet? Et c'est un truchement. Et l'objet est un moyen, l'objet n'est pas une fin, jamais, dans aucune culture, jamais. Jamais. L'objet a besoin d'être... qu'on l'interroge ou qu'on interroge celui qui est à côté de l'objet. C'est ce qui se passe dans ce musée du Quai Branly avec ces deux jeunes Africains, l'un du Mali, l'autre de la Côte d'Ivoire, que je le rappelle, sont en instance d'expulsion. Ils vont être virés du pays, ils vont être virés de ce pays, renvoyés là-bas au Mali ou en Côte d'Ivoire, du moins ils risquent, celui qui est ressortissant de la Côte d'Ivoire risque sa peau si on le renvoie là-bas, et on renvoie ces hommes et on garde les objets qui appartiennent à leur culture. Il y a une contradiction absolument insupportable dans la mesure de plus, où, on le verra soit dans l'émission d'aujourd'hui, soit demain, où il y a une forte spéculation sur ces objets. Il y a là quand même une contradiction qui mérite d'être mise en lumière, qui mérite d'être de faire controverse, et je le disais en commençant, on est tout à fait perplexe et navré que les actuels directeurs de ce musée du Quai Branly refusent de venir polémiquer, discuter et nous informer sur le sens de ce musée qui est un lieu public quand même, hein, qui est un bien public. C'est pas parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises privées ou de mécènes privés dans ce qui ont participé que l'entreprise n'est pas publique, donc la controverse devrait l'être également. On retrouve Bernard Dupin, je rappelle donc qu'il est l'auteur de Le scandale des arts premiers.
Le fait qu'on nie notre travail nous choque, et aussi le résultat. Il y a un alignement d'objets dans des vitrines, un petit peu comme c'était chez nous. C'est le principe d'un musée, des vitrines bourrées d'objets. Mais nous essayons de donner des indications. On avait le souci d'essayer de faire comprendre la vie des gens. On mettait des photos, on mettait des explications, insuffisantes bien sûr dans certains cas. Tandis qu'au Quai Branly, bon, c'est un petit peu une accumulation de belles pièces sans explication, sans photos, avec des toutes petites étiquettes. Et tous ces objets sont un petit peu mis, ravalés au même état. Donc des beaux objets, mais on ne sait pas à quoi ils servent. Et je pense que les gens sont déçus, parce qu'ils veulent savoir à quoi servent tous ces objets. Ils ne veulent pas simplement les regarder, mais ils veulent les comprendre.
Est-ce que ce n'est pas un problème, ça, quand même, assez grave? C'est que des objets sans sujet, quoi. Hein, des objets, des beaux objets... Mais après tout, quand il y a une quinzaine commerciale où il y a Lafayette sur le Pérou, je ne sais quoi, il y a des beaux objets aussi, hein, qu'on mettra sur une étagère, un beau tissu, un beau tapis, puis voilà, quoi. Mais on ne va pas trop se soucier de qui l'a fait, dans quelles conditions ça a été fait. On dit c'est fait à la main, bon. Ouais. Mais c'est tout, voilà. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose? Est-ce qu'on n'a pas un peu le même problème avec le musée du Quai Branly? C'est-à-dire des beaux objets pour une émotion esthétique fugitive
et sans suite et sans contexte et sans l'humanité qui a produit ces objets.
Oui, les objectifs sont différents. Nous prétendions connaître les objets et faire connaître les objets, et les initiateurs du Quai Branly l'ont dit. Ils ont dit, il faut admirer, il faut regarder le côté esthétique, il faut se laisser à la jouissance devant les objets. Et moi, je prétends qu'on ne se laisse pas aller à la jouissance devant les objets, on voit des objets et on veut sortir de l'objet, on veut pas simplement le regarder, on veut tourner autour, on veut voir ce qu'il y a dedans, à quoi il sert, qui l'a fait encore une fois. Et ce qui est énervant, c'est qu'ils prétendent que nous étions incapables d'apprécier la beauté, ce qui effectivement est très vexant.
C'est un chantier suivi de près par Jacques Chirac lui-même. Le musée des arts premiers doit être inauguré en mars 2006, Quai Branly à Paris. Pour l'instant, seul le gros œuvre a été réalisé. Visite de ce qui deviendra un haut lieu des arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Isabelle Béchler, Jacques Gérard.
Un écrin prestigieux signé Jean Nouvel est en cours de construction pour la collection publique d'arts premiers. Dans cette coque vert, verdure et béton, on verra des objets d'art de toutes les cultures trop longtemps sous-estimés en Occident. Des pièces rarissimes présentées pour certaines dans ces boîtes qui seront autant d'univers singuliers dans le voyage du public.
On va le conduire à travers quatre continents. D'abord l'Océanie, puis on va arriver sur l'Asie. De l'Asie, le public pourra passer sur l'ensemble de l'Afrique en suivant l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, puis pourra traverser les continents par l'Amérique, une découverte très libre, il n'y a pas de parcours imposé.
Les collections fort poussiéreuses mais d'une grande qualité scientifique du Musée de l'Homme, plus de 250 000 pièces, et celles du Musée de la Porte Dorée y seront regroupées dès le début de 2006. Branly est un concept de musée self-service où le visiteur, désormais plus actif, pourra se comporter en consommateur.
Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Désormais, le visiteur est un consommateur et le musée est un self-service. C'était les intentions, effectivement, de ce musée dans lequel nous nous trouvons, au Quai Branly, avec nos deux amis africains, les deux seuls Africains de la section africaine de ce musée. Masque Bédu. Nafana, tu connais les Nafana?
Oui, ça, c'est fait pour les hommes uniquement. C'est interdit aux femmes.
Donc les femmes ne voient jamais ces masques-là?
Ils ne voient jamais ça chez nous.
Oui, mais alors tu te rends compte que là, c'est exposé à n'importe qui, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas.
Ouais.
C'est ça?
Ouais.
C'est une façon de profaner quelque chose, non?
Ouais, parce que nous, quand même, si on te dit tu es interdit de regarder, tu es interdit de regarder, tu n'as pas le droit de regarder, au moment, si on fait ces fêtes-là, tu te caches dans la chambre.
C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc c'est des objets de culte, c'est des objets de rite, de rituel. Ça. Très dangereux aussi. Voilà, c'est donc très dangereux de les montrer là n'importe comment.
Ouais.
Hein, c'est ça.
Ouais. Parce que chez nous, déjà une femme qui voit ça, qui fait plus des enfants, il fait plus enfants.
Ça c'est intéressant quand même. Hein. C'est intéressant de montrer que on montre des choses qui ne doivent pas être montrées. Ouais. Et donc c'est déjà un blasphème, c'est un viol d'une culture. Ouais. C'est un manque, au moins un manque de respect vis-à-vis d'une culture. C'est un peu comme si, je sais pas, ils servaient d'un crucifix pour faire un marteau. Moi je trouve que ce serait un blasphème.
Ouais.
Tu vois, ça sert pas de marteau un crucifix. Mais là je sais pourquoi c'est là, parce que c'est, pour nous dans notre esthétique, à nous c'est très beau, c'est plastique, carré, noir et blanc.
Sans bois.
Non mais c'est de la beauté plastique. T'as raison, c'est pas du plastique, c'est du bois.
C'est du bois, c'est
ouais, ouais, ouais. Donc vous voulez dire art plastique, mais bon. Vous savez à quoi ça sert, monsieur?
Pas du tout, je connais plus l'art africain.
Pardon?
Je connais plus, j'aime beaucoup l'art africain, mais je connais plus parce que c'est très difficile de tout connaître.
Oui, de mettre dans le contexte.
Voilà.
Et vous croyez que le musée vous aide à mettre dans le contexte ici?
Vous voyez ça?
Non, pas trop, en fait. Il faudrait des explications, beaucoup plus.
Bah oui,
chaque objet mérite une explication.
Bah oui, c'est ça.
Vous allez voir les trucs là derrière.
Ouais, là, on en était là. Ah
oui, là-bas.
Tu vois, ce qui est intéressant, ce qu'il nous raconte, c'est que c'est interdit que les femmes voient ça.
Ben, tu vois.
Hein? Donc y a, c'est le viol aussi d'une culture, hein, c'est le détournement.
Ah oui, là, non, le problème n'est plus là. Et c'est pour ça que je me dis souvent que
l'Afrique est une femme, quoi. Séduite, mais maltraitée, malmenée, violée. Quand on fait le parallèle, il y a des similitudes. Hein. Et c'est ça qui est... Cette forme de découverte, est-ce la meilleure manière de rendre compte de la richesse d'un continent? Bon, ces objets ne parlent pas d'eux-mêmes. Bon, il faut aller après voir et recourir aux technologies qui vous disent d'où ils viennent, qui ils sont. Mais nous, on cesse de nous demander, étant donné la situation de détresse de la grande majorité des Africains, bon, qui parle pour nous? Où sont les gens? Où sont les vivants, quoi? Et que deviennent-ils dans tout ça? Et quel est le sens de ces objets?
On a dit que ce musée essayait de régler la question coloniale, le passé colonial de la France, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte d'avatar post-colonial dans cette histoire?
Il le perpétue. Et en raison de la genèse, de la démarche, l'acte de rupture que moi j'ai suggéré dès le départ, puisque j'ai été à un moment donné, lorsque j'étais ministre de la Culture, impliqué, j'ai cru naïvement à un moment donné qu'on pouvait à la fois poser le problème dans sa globalité. Et qu'est-ce qui nous vaut notre présence ici? C'est le résultat d'une histoire entre la France et nous, qui a été une histoire de violence, une histoire de prédation. Nous, on n'a pas tant pris à la France. On n'a rien pris pratiquement, sauf bon, ce qu'on veut bien nous laisser. Moi, j'aurais été beaucoup plus à l'aise et si tout cela amenait effectivement nos amis du Nord en général et la France en particulier à poser correctement la question noire, arabe et autres, la question coloniale. Et étaler, c'est-à-dire inviter les gens à lire ici des richesses en disant, voyez comme ils sont humains, comme ils pensent, Chirac le dit dans ses discours, mais ça nous mène où? Lorsque, en dehors de ces espaces-là, et le regard qu'on pose sur moi dans la rue, n'a strictement rien à voir avec la fascination qu'on peut avoir pour ces objets. Est-ce qu'on me respecte davantage parce que ces objets sont ici?
Est-ce qu'on respecte davantage les garçons de...
Ben oui.
Les Africains de Cachan?
Ben non, ils se trouveraient... Ouais, absolument.
C'est l'incongru. Les Africains comme les Asiatiques.
C'est incongru comme démarche. Ils ne devraient pas se trouver aujourd'hui à Cachan si ce musée avait un sens. Autre qu'on se fait plaisir, on a les moyens architecturalement de faire venir 300 000 pièces et de les mettre en vitrine, hein, dans un environnement soft. Les gens vont et viennent, mais il n'y a pas très peu... Où sont les propriétaires de ces pièces-là? Est-ce qu'ils vont pouvoir entrer ici? Nous, on est des privilégiés. Combien d'Africains vont pouvoir venir voir leurs objets ici?
Voilà, merci à tous. Merci à Minata Traoré qu'on vient d'entendre. Merci à Sémé Gaga Oussou et Pozzo Inza de Cachan. Merci à Stéphane Mathieu du collectif des Mille de Cachan. Merci à Bernard Dupeigne. Je rappelle qu'il est l'auteur de Le scandale du quai Branly aux éditions Mille et une Nuits. C'était un reportage avec Renaud Lambert. Toutes les informations concernant les repères des Amis de la Basse si j'y suis sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse si j'y suis. Sur les pages France Inter, La Basse si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures ou bien vous pouvez l'écouter ad libitum sur labas.org, la-bas.org, avec beaucoup d'autres émissions de La Basse si j'y suis. Demain, on continuera la balade au quai Branly. Je pense que c'est un sujet, une controverse intéressante, importante, en espérant toujours, comme nous le à nouveau, que la direction du quai Branly voudra bien répondre et à nos demandes d'interview. À la technique aujourd'hui, Olivier Daligo et Ronan Mahé. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission avec Pascal Pascariello, notre chère assistante, et Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur dans le numéro est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com.